O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado.
Tempestade 2.1.
Olá a todos, il est 14h03 et vous êtes sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Esteban et Liliana sont de retour. Comment allez-vous?
Très bien, comment allez-vous aussi?
Ça va? Il fait un peu chaud quand même.
Mais c'est clair. Mais demain ça baisse.
Oui. Et notre experte Anna Sara est aussi avec nous aujourd'hui. Elle présentera sa rubrique Panorama Ibero-American d'ici 30 minutes. Comment vas-tu?
Ça va, et toi Clarisse, comment tu vas?
Ça va, un peu fatiguée ce matin, mais ça va. Ce matin, bah oui, on est le matin, c'est vrai. Bref, au programme culture, sport et musique, puisque nous recevons Raphaël Eschig, président de la Philharmonie portugaise de Paris. Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Ça va. Je pense que vous m'avez tous posé la question.
C'est vrai.
Donc ça va. Raphaël, du coup, tu t'occupes ce poste depuis seulement 3 mois, après avoir été nommé le 27 février dernier. Et on a aussi 2 autres personnes qui t'accompagnent, une secrétaire, Ana Rita Rodrigues, et un trésorier, Guillaume, qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Guillaume?
Ça va, merci.
Merci, tu m'as pas dit et toi?
Non, c'est pas la peine.
Restez avec nous pour en savoir plus, on en parle au moment de l'interview à 14h45 et on embrasse aussi Julie et Laura qui sont pas là aujourd'hui, mais on vous fait des gros bisous. En attendant, je vous laisse avec Cliché de Fernanda.
Você e eu era tão bom que eu demorei pra admitir que não queria mais. Fechei os olhos para o medo, ouvi que o meu destino não é feito, não existe pra me castigar. Je veux plus de nouvelles de toi, de nous, j'avoue, tu ne me manquais pas. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait sa vie. Ça te fera défaut. Corto meu cabelo, saio, sinto outro cheiro. Tento fazer o meu drama, mas nada adianta. Je voudrais demain que je sois triste. Mais comment je le explique?
De l'événement de la semaine sur Tempestade 2.1. Jeudi, Antonin et Julie ont assisté au concert de lancement du dernier single de Marco Freire, Chouve. C'était un concert assez intimiste, na Pastelaria de Belém de Paris, dans le 17e arrondissement. C'est la première pâtisserie portugaise en France, d'ailleurs. Et on a pu justement voir Marco chanter tout en dégustant de bons plats et des pâtisseries portugaises. N'hésitez pas à vous y rendre si vous voulez une ambiance de maison portugaise en plein cœur de Paris. Et n'hésitez pas aussi à écouter le dernier single de Marco, parce que franchement, il est top. Il est bilingue français-portugais et on avait eu la chance aussi de l'avoir en novembre dernier déjà, lors du gala de Cap Magellan. Donc je répète juste le nom du single, c'est Échouve, et on l'écoutera juste après. Vous le savez, puisqu'on vous en parle aussi depuis un petit moment, l'association portugaise de pelote basque organise son tournoi international et son championnat national de frontball au pavillon Multios de Covernage à Viseu, donc c'est chez moi, c'est excellent. Et c'est ce week-end, donc c'est aujourd'hui et demain. Et d'ailleurs, Cyprien Ducos y était déjà hier soir et il nous a laissé un petit message.
Bonjour à tous, en direct de Viseu, où se déroule ce week-end la troisième édition du tournoi international de pelote basque dans la spécialité de frontball. Donc je suis Cyprien Ducos, le responsable des équipes du Portugal de pelote basque, et je suis avec José Duarte, le responsable de ce tournoi international qui prend de l'ampleur. Alors José, à toi quelques mots.
Étant aqui à notre terceira édition de frontball aqui em Viseu, a primeira edição foi feita no Fontelo, o principal parque de Viseu. Agora é a freguesia de Cavanães, com o pavilhão multiuso que nós empresta então, o pavilhão. E então, pouco a pouco, o nosso torneio fica reconhecido ao nível internacional, é agora reconhecido para a Federação Internacional, e temos os melhores jogadores do mundo. Temos a seleção da Espanha, a seleção da Euskadi, País Basco, a seleção de Catalunha, a seleção de França, mais outros jogadores que vêm também de Portugal e de outros lados. Em paralelo, temos também o campeonato nacional, porque a pelota basca está a desenvolver aqui em Portugal, e vamos ter jogadores da Moita, de Freixo e alguns de Viseu. Todos sejam bem-vindos e grande torneio aqui em Viseu.
Voilà, donc c'était en direct de Viseu, la pelote basque prend racine au Portugal et nous vous invitons à nous suivre de près sur les différents réseaux sociaux. Obrigado, à bientôt.
Merci beaucoup Cyprien, on t'embrasse bien fort. Et vous le savez aussi, nous suivons de près l'avancée de la carrière de José Cruz. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'arrête jamais, il est en perpétuelle tournée pour son spectacle Portugal voyage au centre du monde. D'ailleurs, qui l'a vu ici parmi vous? Je sais que Liliana, tu l'as
vu. Moi, j'ai déjà vu deux fois.
Moi, j'ai toujours pas fait.
Je l'ai vu sur d'autres spectacles.
Ah ouais, ouais. C'était bien.
Ouais.
Ouais, il est trop fort.
José Cruz, quoi.
Ouais, il est trop fort. J'aimerais beaucoup y aller, mais du coup, il faudrait peut-être que je prenne une petite place. Et n'hésitez pas du coup à le suivre sur ses réseaux sociaux pour ne rien rater. Et il passe sûrement à côté de chez vous et même au Portugal. Demain, il se représentera à la Bourse du Travail de Lyon. C'est une salle assez historique d'ailleurs. Donc si vous êtes dans la région, il n'est pas trop tard pour prendre vos places. Donc foncez. Et d'ici 5 minutes, Liliana nous présentera Capital Creative. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le dernier single du coup de Marco, qui est sorti mardi et que nous avions découvert en exclusivité lors du gala de Cap Magellan en novembre, c'est Chouve.
A chuva que vem inonde les rues, navigo sozinho, seul sur ma voile. A chuva caiu, j'ai la tête trempée. Até ao coração, j'ai froid, j'ai besoin de toi. Fico à espera de alguém, quelque chose, enfin voir une main près de moi. Fico sentado et j'attends ce quelqu'un, uma coisa pra poder segurar essa mão. Et j'attends assis bien ici, où le sol apparaissait, il sèche les rues. Perfume des flores me rappelle l'été. Caminho sozinho, je souris au mur. Et nos corazones, moi j'ai besoin de toi. Près de moi, fico sentado. Et j'attends ce quelqu'un, uma coisa pra poder segurar essa mão. Et j'attends assis bien ici. Thank you.
J'attends que saudade de chuva, daquela chuva, que saudade de chuva.
No Tempestade 2.1, criatividade, economia e cultura em sintonia. A Liliana dá voz à economia criativa com capital criativo.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha pour Tempestade 2.1 et tout de suite, c'est l'heure de la rubrique Capital Creative, comme vous l'aurez compris, avec Liliana. Quel aspect du marché de l'art nous présentes-tu aujourd'hui ?
Bien, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un événement qui pour moi est super important. En fait, la semaine dernière, j'ai eu la chance de découvrir pour la première fois la Biennale de Venise. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ?
Moi, je me suis un peu spoilée, mais j'ai regardé sur le doc les photos que tu as mises et c'est incroyable. Genre, c'est super beau.
Ouais, et ben, je vais expliquer. En fait, c'est plus qu'une simple exposition d'art, c'est un véritable laboratoire mondial de la création contemporaine. En fait, pour moi, c'est un peu comme la Coupe du Monde de l'art contemporain. En fait, la Biennale, elle a été créée à la fin du 19e siècle, en 1895 précisément. Et c'est aujourd'hui un rendez-vous artistique très prestigieux dans le monde. Et tous les deux ans, d'où le terme Biennale, Venise devient une immense scène internationale dédiée à l'art contemporain, mais aussi à l'architecture, au cinéma, à la danse, à la musique et au théâtre. Les lieux emblématiques de cet événement, ce sont le Gardini, l'Arsenal et le Lido pour la Mostra de cinéma. Et chaque édition remet ces célèbres lions d'or, des récompenses parmi les plus convoitées du monde de l'art. Et cette année, l'édition 2026, commencée donc ce 9 mai dernier, et du coup l'édition elle durera jusqu'au 22 novembre, portant sur un contexte particulièrement émouvant, puisque la commissaire de l'exposition principale devait être Kouo, une figure majeure de l'art contemporain africain. Et sa nomination devait marquer l'histoire puisqu'elle devenait la première femme africaine à diriger la plateforme artistique la plus prestigieuse du monde. Mais quelques mois seulement après cette annonce, elle est décédée d'un cancer à l'âge de 57 ans. C'est extrêmement tôt.
Ouais, c'est jeune.
Ouais. Et donc avant cette disparition, elle avait pourtant imaginé le concept central de cette biennale, donc In Minor Keys, en ton mineur. Une exposition pensée comme une réponse au vacarme du monde. Plutôt que le spectaculaire, elle voulait mettre en avant des formes plus discrètes, plus sensibles, presque des fréquences émotionnelles, des œuvres finalement qui murmurent au lieu de crier. Et son équipe curatoriale, elle poursuit aujourd'hui cette version avec 111 artistes et collectifs invités et en me renseignant sur cette édition, j'ai eu envie de regarder plus particulièrement les présences lusophones. Et donc on commence par le Portugal, donc du côté du pavillon portugais, il est porté par l'artiste Alexandre Estrela avec une installation intitulée Red Sky Falls. Et le projet part d'un événement historique, le grand tremblement de terre de Lisbonne de 1755. Et à l'époque, cette catastrophe avait bouleversé non seulement la ville, mais aussi la manière de penser les phénomènes naturels et en faisant basculer les explications religieuse vers une approche scientifique. Dans Red Sky Falls, Alexandre Estrela imagine un système connecté à des événements géophysiques réels survenant partout dans le monde. L'installation met en scène des créatures artificielles hybrides sensibles aux mouvements tectoniques qui sont invisibles, une œuvre qui est entre science, fiction, écologie et réflexion sur notre rapport à la planète. Et le pavillon portugais, il est installé pas dans les espaces principaux, mais plutôt dans la ville, dans la Fondaco Marcello, dans le quartier de San Marco. Quant au Brésil maintenant, lui il investit le célèbre Gardini avec deux grands artistes contemporaines, Rosana Paulino et Adriana Varejão, dont j'ai déjà un peu parlé il y a quelques mois. Et leur exposition s'intitule Comigo Ninguém Pode, du nom d'une plante très populaire au Brésil, utilisée comme protection spirituelle dans les maisons. Mais cette plante, elle est aussi toxique, une ambiguïté qui devient ici métamorphose des héritages coloniaux. L'exposition mêle spiritualité, mémoire, nature et histoire coloniale à travers des installations monumentales des œuvres inédites, une manière de... Pardon, une manière de... Pardon. Une manière de montrer comment l'art peut réécrire les récits historiques en convoquant l'imaginaire, le magique et le vivant. Une autre présence lusophone dont je voulais parler, c'est Tim Lecht. Le pavillon timorais réunit les artistes Veronica Pereira-Maia, Eston Cumming et Juventino Madeira autour d'une réflexion sur la langue et l'identité. Au centre du pavillon, une œuvre textile monumentale intitulée Taijdon, réalisée en 1994, rend hommage aux victimes du massacre de Santa Cruz de 1991 à Dili. Les noms des victimes sont intégrés dans le tissu traditionnel timorais, transformant la mémoire orale en mémoire matérielle. Et enfin, une surprise de cette édition dont j'ai trouvé super intéressant, c'est le Vatican et le pavillon du Saint-Siège, imaginé par le cardinal portugais José Tolentino de Mendoza, réunit notamment la fadista Carminho et la peintre Hilda David. Et entre les deux sites du pavillon pour la biennale, elle prend forme d'une prière sonore. Donc l'exposition, elle s'appelle L'oreille de l'œil de l'âme. L'oreille est l'œil de l'âme, pardon, inspirée de la vie et l'héritage de Saint-Hildegarde de Bingen. En réponse à l'appel de la curatrice principale de la biennale, pour des registres plus calmes, le pavillon propose d'écouter comme de la contemplation. Et Hildegarde, abbesse, compositrice, guérisseuse, visionnaire, comprenez le son comme un savoir, un pont entre le corps et le monde, le microcosme et le macrocosme, à une époque de saturation. Son travail invite à l'introspection. Plus que jamais, cette biennale semble nous rappeler une chose. Dans un monde saturé de bruit, l'art peut encore être un espace d'écoute. Et donc j'avais... je voulais vous poser la question de qu'est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces différentes participations lusophones?
Bah franchement, je trouvais ça intéressant. En plus, ça permet de voir aussi le travail des différents artistes et qui sont totalement différents. Et c'est hyper varié. Ça a du sens pour moi, en tout cas. Ça m'a touchée, personnellement.
Et puis de différents pays aussi, ça c'est bien, et pas seulement des principaux, donc ça je trouve ça bien aussi.
Exactement.
Ouais. Oui. Et c'est vrai qu'on voit, là j'ai les photos sous les yeux, on voit vraiment en fonction de chaque pays une marque culturelle vraiment propre à chaque culture. Donc ça apporte aussi une richesse et c'est vraiment très intéressant à découvrir.
Merci beaucoup Liliana de nous avoir fait découvrir... la Biennale de Venise. Et restez avec nous d'ici 5 minutes. Nous faisons le tour de l'actu ibéro-américaine avec Anna Sara. Tout de suite, je vous propose d'écouter une avant-première lusophone pour la Coupe du Monde qui sortira le 5 juin. Le single de Luanzo, un artiste passé par Temstadt 2.1, Portugal vai ganhar.
Norte a sul a vibrar, milhões de vozes a cantar. 11 jogadores vão entrar, hoje ninguém nos vai parar. Verde, vermelho no ar, senti o agulho levantar. Quando o hino começar, a alma inteira vai gritar. Vento, fogo a crescer. Como é, do Cristiano, meu, do qualquer. Aqui a magia é fé. Nosso sonho é campeão. Futebol é tradição. Quando grita a magia é união, tremo o coração do nação. Sento o fogo a crescer. Hoje o sonho vai valer. Portugal nasceu pra ver.
mundo inteiro vai olhar. Cor forte até brilhar, ninguém nos pode travar. Portugal vai ganhar, levanta a bandeira no ar. Juntos vamos conquistar, o sonho vai continuar. Olá.
De Lisboa a São Paulo, passando por Bogotá.
Aqui começa o panorama ibero-americano.
Com Ana Sara,
a voz da atualidade latina.
Tempestade 2.1 sur Radio Alpha, nous sommes avec vous jusqu'à 16h et vous arrivez à temps pour Panorama Ibero-Americano avec Ana Sara. Alors, qu'avons-nous raté ce mois-ci ?
Et ce mois-ci, entre traditions religieuses, ambitions économiques, sport, culture et enjeux politiques majeurs, l'actualité nous emmène au Portugal, en passant par la Colombie, le Costa Rica et l'Argentine. Et on commence comme toujours par le monde lusophone avec le Portugal. Le mois de mai est un moment très particulier dans la vie religieuse portugaise avec les célébrations de Notre-Dame de Fatima. Chaque année, autour du 13 mai, des dizaines de milliers de pèlerins se rendent à Fatima, au centre du pays, l'un des plus grands lieux de pèlerinage catholique du monde. Pour beaucoup de Portugais, ce n'est pas seulement une tradition religieuse, c'est aussi un moment profondément culturel et identitaire.
Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux les photos, c'était incroyable, c'était hyper émouvant. Il y avait tellement de gens en plus.
Ah oui, et pour comprendre l'importance justement de Fatima, il faut revenir en 1917. Sur la tradition catholique, la Vierge Marie serait apparue à trois jeunes bergers dans cette petite ville du centre du Portugal. Depuis, le sanctuaire est devenu un lieu majeur du catholicisme mondial, attirant des pèlerins venus de toute l'Europe, mais aussi d'Amérique latine et notamment du Brésil. Et donc comme tu le disais Clarisse, cette année encore, les cérémonies ont réuni une foule importante dans un contexte où les questions spirituelles occupent une place particulière dans plusieurs sociétés européennes. Mais le Portugal ne regarde pas seulement vers son passé ou ses traditions, le pays cherche aussi à renforcer sa place sur le plan économique et stratégique. Ces dernières semaines, plusieurs médias portugais ont évoqué le développement des capacités sous-marines du pays et le rôle croissant du Portugal dans les opérations de surveillance maritime de l'Alliance Atlantique. Grâce à sa position géographique entre l'Atlantique et l'Europe, le Portugal est considéré comme un acteur important pour la sécurité maritime de l'OTAN, notamment dans un contexte international marqué par des tensions croissantes sur les routes maritimes et les infrastructures sous-marines. Et puis, il y a aussi le football, évidemment incontournable. La sélection, la préparation du Portugal pour la Coupe du Monde 2026 commence à se préciser. La Fédération portugaise a annoncé que la sélection affrontera le Nigeria le 10 juin au stade Dr. Magalhães Pessoa Leiria pour son dernier match amical avant le début du Mondial. Et le choix de Leiria n'est pas anodin. La ville avait été fortement touchée récemment par la tempête Christine, qui avait provoqué d'importants dégâts dans la région. Mais le stade a pu être remis en état à temps pour accueillir la sélection nationale. Le maire de Leiria, Gonçalo Lopes, a d'ailleurs salué ce symbole de résilience, expliquant que la ville voulait montrer qu'elle pouvait se relever et accueillir tout le pays derrière son équipe nationale. Avant ce match contre le Nigeria, le Portugal affrontera également le Chili le 6 juin au stade national du Jamor. Ces deux rencontres serviront de préparation avant une Coupe du Monde très attendue, dans laquelle la sélection portugaise espère jouer un rôle important. Et puis il y a aussi la culture et la musique, évidemment incontournable dans l'agenda culturel. Ces dernières semaines, Lisbonne a également beaucoup fait parler avec l'annonce du concert de Bad Bunny, qui a eu lieu cette semaine.
J'ai tellement hâte d'y aller, mon Dieu.
Dans le serveur des places.
Évidemment, et en plus je suis en carré or.
Et cette semaine, Lisbonne a vibré au rythme du concert de Bad Bunny au Stade da Luz. La star portoricaine, devenue l'un des artistes les plus influents au monde, s'est produite devant des dizaines de milliers de spectateurs dans l'un des lieux les plus emblématiques du football portugais. Et l'événement a suscité un énorme enthousiasme, bien au-delà du public lusophone, car aujourd'hui, Bad Bunny est devenu un véritable symbole de rayonnement culturel latino-américain à l'échelle mondiale. Et cette connexion culturelle entre le Portugal et l'Amérique latine est justement une transition parfaite pour traverser l'Atlantique et rejoindre maintenant l'Amérique centrale avec le Costa Rica. Le pays a officiellement une nouvelle présidente depuis le 8 mai, Laura Fernandez Delgado. Son élection a beaucoup attiré l'attention dans la région, car le Costa Rica est historiquement considéré comme l'un des pays les plus stables démocratiquement en Amérique latine. Le pays n'a plus d'armée depuis 1948 et possède une longue tradition institutionnelle relativement modérée, avec une image souvent associée à la stabilité politique, au tourisme écologique et à la protection de l'environnement. Mais ces dernières années, le Costa Rica a été confronté à plusieurs transformations importantes. Le pays a notamment vu augmenter les problèmes liés au narcotrafic régional et à l'insécurité. En raison de sa position géographique entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, le Costa Rica est devenu une zone de passage stratégique pour certaines zones du trafic de drogue. Cette évolution a profondément modifié le débat politique dans un pays qui était longtemps perçu comme relativement épargné par les violences que connaissent certains voisins d'Amérique centrale. Laura Fernandez Delgado a justement construit sa campagne autour des thèmes de sécurité, de réforme institutionnelle et du renforcement de l'autorité de l'État face au crime organisé. Elle a également insisté sur les questions économiques, notamment sur le coût de la vie, l'emploi et la modernisation des infrastructures. À 39 ans, elle devient l'une des plus jeunes dirigeantes du continent et seulement la deuxième femme présidente du Costa Rica. Son arrivée au pouvoir est suivie de très près dans toute l'Amérique centrale car elle reflète une évolution plus large dans plusieurs pays de la région, la montée des préoccupations sécuritaires et des demandes de fermeté face aux violences liées aux cartels et au narcotrafic. Dans son discours d'investiture, la nouvelle présidente a promis de défendre les institutions démocratiques du pays tout en renforçant les moyens de lutte contre la criminalité organisée. Son mandat sera donc particulièrement observé aussi bien à l'intérieur du Costa Rica que dans le reste de la région. Direction maintenant l'Argentine, où le mois de mai est lui aussi chargé en symbole historique. Le 25 mai, le pays a célébré la Révolution de Mayo, un événement fondateur de l'histoire argentine. Cette date commémore le début du processus d'indépendance face à l'Espagne en 1810. Chaque année, des cérémonies officielles, des défilés et des événements culturels sont organisés dans tout le pays. Mais dans le contexte actuel, ces célébrations prennent aussi une dimension politique particulière. L'Argentine continue de traverser une période de profonde transformation économique et politique, marquée par les réformes engagées par le gouvernement de Javier Milei et par de nombreux débats autour de l'avenir économique du pays. Dans ce contexte, les célébrations et commémorations du 25 mai prennent une dimension encore plus particulière. Elles deviennent un moment de profonde réflexion sur l'identité nationale, les grands changements que traverse l'Argentine et la place du pays dans une région et un monde en pleine évolution. Et puis, pour terminer cette chronique direction la Colombie, le pays se prépare à une échéance politique majeure, l'élection présidentielle qui approche progressivement et qui commence déjà à structurer le débat public. Les enjeux sont nombreux, questions de sécurité, narcotrafic, relations avec les États-Unis, accords de paix avec les groupes armés, situation économique, tous ces sujets occupent déjà une place centrale dans les discussions politiques. La Colombie reste un pays stratégique en Amérique latine, notamment en raison de sa position géographique, de son rôle dans la lutte contre le narcotrafic et de son influence diplomatique régionale. Les prochains mois seront donc particulièrement importants pour l'avenir politique du pays. Et bien sûr, nous décrypterons les résultats et les enjeux de cette élection le mois prochain dans Panorama Ibero-Americano. Et comme toujours, vous pouvez retrouver les présentes chroniques en podcast et sur le site de Radio Argent.
Merci beaucoup Anna Sarah, c'était très complet, très dense. Restez avec nous d'ici 5 minutes, nous serons en interview avec Rafael Lechig. En attendant, je vous laisse avec le dernier single de l'artiste luso-descendant, Zezinho, Pas pour moi. I'm just not in your heart.
Je dois rester concentré. Jamais été tenté. Madame est un peu compliquée. On a juste à se regarder. Parfois j'oublie tout. Mon cœur est dans le flou. On va les choquer tout pour nous. Il va même falloir rendre les coups. Bah oui.
Stoppez-les.
Ceux qui veulent nous freiner, stoppez-les. Et maintenant faut pas abuser. Avancer, on va rien calculer. Stoppez-les. Ceux qui veulent nous freiner, stoppez-les. Et maintenant faut pas abuser. Avancer, on va rien calculer. Non.
J'avoue m'endetter, on m'a dit c'est pas pour moi. Ton corps était piégé, bébé je succombais. Mes problèmes je les garde pour moi. J'ai tout mis de côté, on se verra à l'arrivée. Tout mon plan à mon plan B. On m'a dit c'est pas pour moi. On m'a dit c'est pas pour moi. J'ai dû tout cacher dans un endroit là où je n'avais pas un froid. Rangé tous mes péchés, j'ai personne à qui m'adresser. J'ai tendu la main, on m'a donné zéro espoir. Et aujourd'hui on me demande qu'est-ce qui se passe. Va falloir s'accrocher, mon cœur n'a plus d'espace. Viens pas ici me raconter tes histoires. Viens pas sonner le jour de mes victoires. Mais tout ça je voulais pas. Bloqué dans l'escalier, je te promets je voulais pas. On va
tout reconstruire dans mon état, je pouvais pas. De ton cœur, je vais garder la caution. Je te connais par cœur comme mes chansons. On a tout fait, on a tout appris. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai rien regretté. J'ai beau m'endetter, on m'a dit c'est pas pour moi. Ton corps était piégé, bébé, je succombais. Mes problèmes, je les garde pour moi. J'ai tout mis de côté, on se verra à l'arrivée. T'es mon plan A, mon plan B. On m'a dit c'est pas pour moi. J'ai rien regretté, j'ai beau m'endetter, on m'a dit c'est pas pour moi. Ton corps était piégé, bébé, je succombais. Mes problèmes, je les garde pour moi. J'ai tout mis de côté, on se verra à l'arrivée. T'es mon plan A, mon plan B. On m'a dit c'est pas pour moi.
O tempo nunca vai curar as cicatrizes.
Tempstad 2.11 sur Radio Alpha, vous arrivez à temps pour l'interview avec Rafael Lechig, président de la Philharmonie portugaise de Paris. Il est accompagné donc de Guillaume et je voulais savoir si vous allez toujours bien.
Toujours, ça
toujours.
Avec la clim, fraîchement.
Avec la clim, ouais.
On va commencer tout de suite car j'ai très envie de savoir comment as-tu connu la Philharmonie au cours de ta vie ?
Philharmonique, ouais, ça remonte à loin parce que moi, mon père était déjà membre de la Philharmonique avant même que je naisse. Il a immigré en France en 89, il a trouvé une Philharmonique avant de trouver un boulot. Mm-hmm. Du coup, je suis né dans la musique, mon frère en fait partie.
Il est né dans la musique aussi.
Du coup, une évidence de jouer de la musique, de commencer un instrument et de, quand on va au Portugal aussi, jouer avec la Philharmonique du village de mon père et compagnie.
Et justement, est-ce que tu pourrais présenter la Philharmonique portugaise pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas rapidement.
Du coup, la Philharmonique, elle a été créée en 1986 par Nicolau Lopes, donc qui vient d'un village juste à côté du Mirão, au Portugal, donc Miradaire, qui était la bande Philharmonique de Miradaire, qui depuis n'existe plus malheureusement. Et puis ensuite, ils ont fait une première sortie en 87 pour Radio Eglantine. Le lien avec la radio. Donc c'était la première sortie de la Philharmonique, donc 1er novembre 87 si je ne me trompe pas.
Exactement.
Et puis voilà, donc ensuite ils ont continué le bonhomme de chemin, ils ont présenté officiellement l'association à l'époque à l'ambassade en 88. Avec l'ambassadeur qui était parrain de l'association, et puis ensuite Roulez Jeunesse jusqu'à aujourd'hui. On a encore des membres fondateurs qui font partie de la Philharmonique. Donc mon père était là au début, Breira qui est toujours là, et puis malheureusement on en a perdu en chemin. Voilà.
Et du coup tu es président de la Philharmonique depuis un peu plus de 3 mois. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce rôle? Est-ce que tu as un peu de pression? Comment tu gères ça?
Alors de la pression, il y en a toujours un peu, il y a toujours des imprévus de dernière minute, des changements qu'il faut adapter ou autre. Mais non, sinon c'est un rôle que je prends à cœur. Mon but c'est d'essayer de faire un peu rayonner la Philharmonique, qu'on parle un peu plus de nous. Parfois des personnes nous disent « Ah, je savais pas qu'il y avait une Philharmonique portugaise en France ». Bah justement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que des personnes nous ont oubliés, on va dire, en chemin. Justement, pour que de nouvelles personnes nous rejoignent, fassent partie du groupe et viennent jouer d'un instrument si jamais des gens nous écoutent et veulent venir jouer avec nous de la musique, ils sont le bienvenu.
Et c'est le seul orchestre philharmonique portugais dans les communautés de langue portugaise en Europe.
Ouais.
Et est-ce que justement c'est une fierté ou alors une déception justement qu'il n'y en ait pas d'autres? Comment tu vis ça?
Moi je dirais que c'est une fierté qu'on soit les seuls à représenter la musique d'harmonie, parce que du coup la philharmonique c'est de la musique d'harmonie en France, parce que la philharmonique n'existe pas en France, en tout cas dans sa version portugaise, philharmonique, donc c'est de la musique d'harmonie portugaise. On est les seuls en Europe à représenter, c'est une fierté totale. Je serais aussi heureux qu'il y ait d'autres acteurs en Europe ou en France avec qui on pourrait échanger, faire des échanges et compagnie, mais bon, si on est les seuls, c'est pas grave.
Et justement, est-ce que vous poussez ou est-ce que vous avez des projets par rapport à ça ou...
Par rapport au développement en Europe?
Oui, par exemple.
Alors là, non. pas trop, à part avec des liaisons avec le Portugal, des philharmoniques au Portugal qu'on connaît, avec qui on a pu faire des échanges. On est parti 3, 4, 5 jours, une semaine à peu près, faire des workshops, des concerts avec eux et compagnie et compagnie. C'est les seuls événements européens qu'on peut avoir, mais c'est liaison France-Portugal direct. On n'a pas d'autres pays en Europe, malheureusement, même si j'aimerais bien.
Et l'année prochaine, justement, la Philharmonique portugaise de Paris, elle fêtera ses 40 ans. Ouais. Des événements d'envergure seront organisés. Et sans évidemment trop spoiler, à quoi le public peut-il s'attendre? Alors... Parce que 40 ans, quand même, c'est grosse bougie, quoi.
C'est grosse bougie, ça se fête. Surtout, en fait, tout le travail qui a été fait avant que nous on arrive. Hein, nous, on récupère un bébé qui est grandi et qui marche bien. Donc, c'est surtout les 40 ans de boulot qu'il y a derrière, de tous les anciens. Et puis aujourd'hui, on a pas mal de travail, surtout notre maestro. André, si tu nous écoutes, gros bisous à toi. Qui est notre maestro depuis 10 ans, qui travaille sur un répertoire plutôt cool, plutôt sympa, qui sort des sentiers battus de choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Donc, niveau musical, ça, et sûrement des petites collabs avec des associations, dont une que je peux citer, qui sont nos amis qui nous accueillent aujourd'hui pour faire toutes nos répétitions, c'est Osarlex Donald, donc à Ivry-sur-Seine. Merci à vous encore pour toute l'aide que vous nous donnez tous les vendredis soirs à la répétition.
Et du coup, ça sera toute l'année, j'imagine, il y aura...
Ouais, exactement, on va essayer d'étaler ça un peu sur l'année, avec plusieurs événements, des dîners, concerts, peut-être faire des invitations aussi si on peut, d'artistes portugais qui jouent en Europe. On a des idées, on aimerait bien faire venir un musicien portugais, un trompettiste portugais, l'un des meilleurs, qui vit en Angleterre, et qui pourrait peut-être venir jouer avec nous, pour ceux qui ont trouvé bien joué. Sinon les autres, bonne chance pour toi.
Surprise. Et du coup, la Philharmonique, elle a lancé un appel à recrutement auprès de tous les musiciens amateurs ou confirmés qui souhaiteraient rejoindre la Philharmonique. Et aujourd'hui, elle en compte 20. Et comment vous allez choisir justement parmi toutes ces candidatures? Est-ce que vous avez un nombre précis de musiciens que vous souhaitez recruter? Et est-ce que l'ensemble doit être portugais, lusophone ou au moins avoir des origines?
Alors, aucun critère de recrutement, on va dire vraiment du musicien amateur au musicien professionnel. Il y a tout type de niveau, c'est très éclectique. Du coup, français, portugais, espagnol, n'importe quelle origine, venez nous rejoindre. On est là pour jouer de la musique d'harmonie. Si je peux vous parler un petit peu de ce qu'on fait, nous on fait surtout des concerts, des défilés et des processions. C'est notre cœur de métier, on va dire. Sur les concerts, on a un répertoire lusophone, vraiment, donc portugais, de la musique portugaise, et un répertoire aussi plus international, où le but c'était de s'ouvrir aussi toutes les personnes qui connaissent pas la musique portugaise, enfin voilà, pour pouvoir mixer les deux. Et puis ensuite sur la partie procession et défilé, c'est plus de la musique portugaise de philharmonique qui est jouée au Portugal.
Et vous collaborez du coup avec beaucoup d'institutions et d'associations portugaises en France. Et est-ce que vous souhaitez organiser davantage de partenariats et comment vous y prenez, enfin, comment tu les choisis?
Alors, il n'y a pas vraiment de choix. En soi, les associations viennent nous voir quand ils ont un projet à nous proposer, que ce soit donc concert, défilé. On a animé des messes, on va animer une messe par exemple où on va chanter nous la messe. Alors c'est un peu un challenge,
mais oui, c'est sympa. Oui, ça peut être super beau.
Ah oui, bah on l'avait déjà fait l'année dernière. Mm-hmm. Et donc cette année on réitère l'expérience à Deuil-la-Barre, donc le 5 juillet si jamais. Donc on chante la messe et après on fait une procession et puis un concert.
Super.
Mais sinon pas de choix particulier sur les associations avec qui on travaille. Vraiment, on accepte de travailler avec tout le monde et au contraire on aimerait travailler avec plus de gens parce que aujourd'hui on a surtout des associations historiques, des contrats historiques on va dire. Par exemple demain on sera à Ballancourt-sur-Essonne pour la procession de Notre-Dame de Fatima. C'est une sortie qu'on fait depuis plus de 30 ans, enfin depuis presque
10 ans. Presque 40 ans.
Enfin, ouais.
C'est l'une de nos plus vieilles sorties.
Ouais, vraiment, ça fait partie de nos plus vieilles sorties avec le défilé du 8 mai et du 11 novembre à Villiers-sur-Marne. Pareil, c'est des sorties historiques. Mais après, toute association qui aimerait se rapprocher de nous pour un concert, un défilé ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, par mail ou autre. Enfin, voilà.
Et du coup, ça fait. Comme Clarisse l'a dit, 3 mois que tu es président et que tu travailles avec 2 autres personnes, donc Henriette Rodrigues, la secrétaire, et donc Guillaume, qui est le trésorier et qui est présent avec nous. Et justement, est-ce que vous vous connaissiez avant et quelle est votre relation justement, enfin, non mais enfin, puisque ça fait pas longtemps que vous travaillez ensemble, justement, quelle est votre relation entre
alors,
vous trois?
Guillaume, c'est triché parce que Guillaume, on se connaît depuis trop longtemps.
Grâce à la Philharmonique.
Grâce à la Philharmonique.
Puisque je suis rentré à la Philharmonique en 2008.
Ouais, moi je suis rentré en. Bon, je sais plus.
Bah, t'es né avec.
Dans le berceau.
Exactement, c'est exactement ça. Et oui, en fait, bah, c'est d'année après année, en fait, bah, on crée une famille aussi au sein de l'association, ce qui permet de faciliter les échanges et de pouvoir travailler beaucoup plus facilement maintenant sur cette nouvelle direction. Puisque moi, j'ai déjà fait partie d'anciennes directions de la Philharmonique il y a quelques années.
Et Anarita, du coup, nous a rejoint il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans. On était à une sortie, elle avait un peu peur de venir nous parler, sauf qu'on ne mord pas, venez nous parler si vous nous voyez, vraiment, on est très gentils, n'ayez pas peur. Pardon. Et elle est venue nous parler, et puis depuis, elle jouait avec nous, c'est grâce à elle aussi qu'on peut avoir la salle qu'on a aujourd'hui, et puis voilà. Mais sinon, tout se passe très bien, incroyable.
Donc c'est devenu la famille, là.
C'est devenu une famille, exactement.
Depuis 2008. C'est trop chou. Et du coup, 3 musiciens de la Philharmonique partiront le 12 juin en pèlerinage à Fatima. Exactement. Et pas n'importe comment, puisqu'ils iront à vélo. Pourquoi organiser cet événement? Quel est l'objectif?
Alors, cette idée, elle vient... alors, je peux les citer déjà. C'est Unek, Ricardo et Robert. S'ils nous écoutent, bon, ils nous écoutent.
Ils nous écoutent.
Je les connais. Ils nous écoutent, c'est sûr. C'est. Bon, alors, celui qui faisait le plus de vélo, c'était Unek. Et puis, un soir, une répétition, à la fin de la répétition, il dit j'aimerais trop faire un pèlerinage à Fatima à vélo. Alors, lui, il faisait beaucoup de vélo, donc 150 bornes facilement. Et puis, du coup, Roberto et Ricardo ont dit ah ouais, trop bien, on y va. Donc ça fait 4-5 mois qu'ils se préparent.
Et c'est une préparation.
C'est toute une préparation.
Tous les week-ends, ils vont rouler, ils font 100 à 150 bornes.
Puis ils vont être suivis et tout, évidemment. Donc,
Y a beaucoup de choses à voir. Où est-ce que tu vas t'arrêter? Par où tu passes? Où est-ce que tu dors?
Oui, accessoirement.
Qu'est-ce que t'emmènes si tu crèves? Comment tu changes de... Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est du coup, là, ils vont partir le 12 juin en route vers Fatima. Et le but, c'est de faire un pèlerinage... musical et religieux en même temps. Voilà. Donc on était à Bayeux en France il y a 2 semaines.
Exactement.
Et on a eu la chance que le prêtre les bénisse pour leur départ et on leur souhaite tout le meilleur pour cette aventure.
Ouais, on leur souhaite. Hein.
Clairement.
Vous nous direz en combien de temps ils l'ont fait.
Alors ils comptent le faire en...
2 semaines.
Ouais, en
14 jours.
Ils comptent le faire en 2 semaines puisque du coup c'est à base de
150 bornes jour,
150 160 kilomètres par jour. Effectivement, c'est 1800 voire un peu plus de kilomètres.
L'objectif c'est 120 jours qu'on avait dit exactement. Qui voulait faire minimum.
Minimum c'est 120 km par jour avec un temps de pause forcément et de récupération et 14 jours puisque il y a quand même 1800 km.
Bah, j'ai hâte de savoir.
Ouais, on espère que ça va bien se passer.
On
tiendra
au courant via les réseaux sociaux aussi. Et puis, on espère qu'ils nous enverront quelques photos pour qu'on puisse les accompagner aussi, nous, à partir de Paris.
J'aimerais bien être à l'arrivée, étant juste à côté de Fatima, ce serait cool. Mais bon, à voir en fonction de la vie aussi, de notre travail.
Bon, en tout cas, bon courage à eux et même à vous aussi. Et on a 2 questions pour terminer cette première partie. Quels sont les objectifs de la Philharmonique, justement, que tu, enfin Raphaël et même Guillaume, que vous souhaitez atteindre lors des prochains mois, années?
Alors là, le plus gros objectif, vraiment, c'est le recrutement. On aimerait que la Philharmonique revienne un peu à son âge d'or. Voilà, à l'époque, on était 40 musiciens. Aujourd'hui, on n'est plus que 20. Les départs, les retraites, on fait que... le but c'est vraiment de recruter un maximum de personnes. Donc encore une fois, n'hésitez pas à venir nous rejoindre le vendredi soir, Ivry-sur-Seine, Erlich du Nord, à partir de 21h.
Ce serait qui votre collab de rêve? Qui ou un groupe?
Moi je sais que Guillaume il a déjà la réponse en tête.
Alors. Pour le coup, on en a déjà parlé et tu sais bien ce que j'en pense et les événements que j'aurais aimé faire, c'est que la Philharmonique puisse accompagner des Fadish Tash.
Ouais. Ce serait fou.
Exactement. Et puis, Mme Elisa, par exemple, qui nous accompagne.
Ah oui, comme ça.
Enfin, oui,
comme ça.
Voilà, c'est tout.
Que ça.
Voilà. Non. Pour le coup, c'est au Manoïto de Fad où j'avais avec la Philharmonique qui accompagnerait certains Fadichtes de renom. Effectivement, ça serait une idée.
Plutôt pas mal.
Un but
à accomplir.
Toi aussi.
Moi, peut-être pas, tu vois. Non, mais alors j'adore l'idée, hein, vraiment, l'idée est trop cool. Mais moi, j'aimerais bien, par exemple, là, on commence à répéter une musique avec un compositeur portugais. Mm-hmm. Tu vois, juste qu'il puisse venir une fois à un concert, nous maestrer sur sa propre musique, une philharmonique hors du Portugal, en France, ça pourrait être trop cool, tu vois. Genre, mm-hmm. Un truc comme ça auquel je suis un peu plus sensible, perso.
Et vous avez justement des concerts de prévus très bientôt, et au Portugal notamment ou...
Au Portugal, non.
Pas cette année. Pas cette année. Le Portugal, c'est assez compliqué à organiser, puisque du coup, on est accueilli par des philharmoniques au Portugal sur leurs événements. Nous, ça nous demande une gestion aussi complexe, puisque du coup, on a quand même 20 musiciens qui ont leur vie et leur travail, donc du coup, ça complique un peu. Là, sur les prochaines sorties, on est à Ballancourt, donc demain. On est pour le 21 juin dans le 18e.
Exactement.
Et puis après, on en a d'autres qu'on pourra voir en deuxième partie.
Merci beaucoup, Raphaël et Guillaume. On continue justement d'ici 5 minutes cette conversation. Nous parlerons de ta carrière et tout de suite, on s'écoute Something de Carlos Marx. Vous êtes sur Radio Alpha pour l'émission Temstad 2.1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours en interview avec Raphaël et Guillaume. Donc Raphaël, président, on le répète, de la Philharmonique portugaise de Paris. Et je voulais te poser la question suivante, c'est comment ça t'est venu, le goût de la Philharmonique? Parce que ok, t'as grandi avec, mais je pense que t'as développé un vrai goût pour ça. Donc je voulais savoir d'où ça vient.
Ah ouais. Bah, en fait, tu sais, quand t'es petit, tu te retrouves tous les vendredis à la répétition. En plus, bon, moi j'ai toujours eu un truc, une sensibilité pour la musique. Je m'asseyais toujours à côté des trompettes. Aujourd'hui, je suis trompettiste, tu vois. Les choses sont liées. Et même la musique en plus général, je sais que mon père a une anecdote de moi que j'avais 4 ans, on est parti à Vienne à Bukestern, à Schwestas de Vienne, il y avait Ouchbomb, vous savez, là, les groupes de grosses caisses. Et ben moi, je me suis assis en plein milieu, parce que j'adorais. Du coup, j'ai toujours une sensibilité pour la musique.
Ouais, je me doute.
Le goût pour la musique, du coup, c'est vraiment venu depuis petit, comme ça, naturellement.
Ouais, c'est ça, exact.
Ok. Et du coup, est-ce que c'était un rêve ou pas de devenir président de la Philharmonique, ou alors est-ce que t'avais un rêve justement par rapport à la musique quand t'étais petit, je sais pas?
Alors un rêve de devenir président de la Philharmonique, peut-être pas. Peut-être pas, mais les choses ont fait que bah, aujourd'hui on en est là, et puis bon, on essaie de faire au mieux pour recruter et autres. Mais non, à un moment j'ai failli devenir musicien professionnel, sauf que bon, la vie a fait que j'ai pris une autre route finalement. Et puis voilà. Là maintenant, la musique, c'est plus une passion, c'est ce qui me fait un peu vibrer, tu vois. C'est le vendredi, il n'y a pas répète, je suis un peu frustré. Vraiment.
C'est voilà. Quel horaire le vendredi pour répète?
21h.
Ah ouais,
c'est de 21h à 23h.
Ah ouais.
Bah, les gens bossent le vendredi, tu vois, ils finissent à 19h, le temps qu'ils mangent, qu'ils puissent venir, ils ont une heure de route. Ça, va vite. Hein.
Et justement, tu as choisi une musique de Greatest Hits Range Diogo Costa.
Exactement.
Pourquoi ce choix?
Alors justement, ça, c'est la nouvelle acquisition, on va dire, qu'on a faite
c'est la nouvelle acquisition.
Exactement. Et en fait, c'est un arrangement de hit hyper connu par un compositeur portugais qui est un ami de notre maestro, qui plus est avec qui il a commencé à jouer en philharmonique et autres, et qu'on va monter, et on espère pouvoir le présenter d'ici l'année prochaine, si tout se passe bien. Et puis voilà, c'est pour vous montrer aussi un peu ce qu'on peut faire avec des instruments... avant, comme quoi on peut faire des musiques connues. Là, vous allez entendre, il y a du Michael Jackson, il y a des Beatles.
Ne spoil pas tout. Ne spoil pas tout. Après, juste pour l'info, c'est pas la Philharmonique qui la joue là, puisque du coup, on est en train de la monter. On espère pouvoir revenir l'année prochaine avec le projet monté et le faire écouter aux auditeurs.
Bon, on s'écoute ça tout de suite. C'est trop bien. Donc franchement, moi j'ai adoré, je viens de m'ambiancer sur du Michael Jackson. Je savais pas qu'il y avait justement ce genre de musique, donc ça fait plaisir de découvrir. Et je voulais te demander, de quoi es-tu le plus fier quand tu repenses à ton parcours ? Ah, je sais, c'est dur.
Parcours musical ou global ?
Tu peux dire les deux.
En vrai, il y a un truc qui m'a fait vachement plaisir, hein, c'est que le jour où on a fait l'AG et tout ça, de changement de bureau, que quasi tous les musiciens me fassent confiance pour reprendre le rôle... Ça m'a fait vraiment plaisir. Ils le savent pas, je leur ai jamais dit. Ils sont en train d'écouter comme des fous, donc je sais qu'ils vont écouter, donc merci. Merci encore à vous, ça m'a fait vraiment plaisir. Et qu'on puisse continuer à jouer, quoi, c'est le plus important. Le but, c'est que le groupe ne s'arrête jamais, parce qu'on adore ça. On adore ça.
Ça se voit.
Ça fait bien, tu vois.
Ça se voit.
Et du coup, quelle influence a eu le Portugal, justement, dans ta carrière professionnelle, et même Guillaume, justement ?
Dans ma carrière pro ?
Ouais. Personnel aussi, si tu veux en parler.
Perso, alors bon, moi je suis très attaché au Portugal. Objectif de vie de partir vivre là-bas et compagnie d'ici 3-5 ans, j'espère. Partir vivre au Portugal. Mais dans ma vie pro, ça m'a amené pas mal de choses en vrai, parce que le fait de parler portugais aujourd'hui, ça m'aide vachement dans mon boulot. Puisque dans ma boîte, vu que je parle portugais, j'ai eu la chance d'être sur certaines missions que j'aurais peut-être pas été de base et autres, tu vois. Donc. Perso, ça m'a beaucoup aidé, et aussi pour apprendre l'espagnol.
Ouais, ça aide. Mais par contre, eux, ils ne nous comprennent pas. Ça, c'est excellent.
Ouais.
Tout dépend d'où tu es, du Portugal.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Ça dépend.
C'est tout à l'heure.
Non.
Mais sinon, c'est une vraie richesse, ça, c'est clair.
Et toi, Guillaume, alors ?
Alors, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, du coup, c'est vrai que le Portugal, le portugais, la lusophonie et même la lusodescendance a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai 13-14 ans. Dans mon parcours perso, j'ai appris énormément avec les associations, pour pas les citer, Cap Magellan et la Philharmonique.
Pour pas les citer, quoi.
Pour pas les citer. Et puis dans mon parcours pro, ça m'a ouvert certaines portes aussi, certains contacts. Le fait de parler portugais est une vraie richesse aujourd'hui. Avec des développements. J'ai pu travailler aussi au Portugal, puisque je suis parti vivre 3 ans là-bas. Je suis revenu depuis. Mais c'est vrai que c'était une vraie richesse.
Ouais, j'imagine. Et du coup, c'est l'objectif de la Philharmonique, la promotion de la culture musicale portugaise. Pour vous, quelle est l'importance justement de cet héritage et comment vous trouvez aujourd'hui sa transmission ?
En fait, quand tu regardes bien... Je sais pas si vous partez l'été ou en vacances au Portugal.
Oui.
Chaque fête de village, il y a un moment de Philharmonique qui joue pour faire les fêtes et compagnie. En fait, c'est juste dans la logique des choses que de conserver. C'est même pas un héritage parce que c'est encore développé aujourd'hui, c'est encore joué aujourd'hui, c'est encore dans le quotidien des villages. Enfin, moi, je vois le village de mon père, il est pas énorme.
Ouais.
Et pourtant, la Philharmonique, ils sont 40, quoi.
Ouais.
C'est énorme, c'est un petit village, quoi. Donc là-bas, c'est très implémenté, c'est très.
C'est une tradition.
Ouais, c'est une tradition, voilà, c'est normal. Et du coup, pour tous ceux qui viennent en France, on a des musiciens qui, avant de partir du Portugal, avaient déjà trouvé une philharmonique, type mon père, type André.
André, pour pas le citer.
Trompettiste, ça fait déjà. On a trouvé ça il y a pas longtemps, le premier mail qu'il a envoyé à la philharmonique. Et c'était. Je vais bientôt partir en France. Est-ce que vous acceptez des musiciens Et il avait même pas encore annoncé à sa mère qu'il partait en France.
Pour la blague, effectivement, notre ancien président était au courant avant même sa famille qui partait en France.
Ok.
Ah ouais, du coup, ceux qui ont ça dans le sang et qui adorent,
c'est vrai.
Ça, c'est direct.
Quoi. Justement, si tu vas vivre au Portugal, est-ce que tu rejoindrais une philharmonique portugaise?
Oui. Okay. Mais oui, c'est évident. Après. Je triche parce que tous les étés je vais là-bas, je joue dans la famille de mon père, donc c'est comme si j'y étais, mais que un mois par an, tu vois, par intérim.
Ouais, intérim, petite mission de l'été.
Et justement, on a parlé du Portugal, mais la France aussi, qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre carrière aussi ?
Moi, dans ma carrière perso pro,
les deux.
Enfin, déjà les études, le cadre de vie, tout ça. Hein, très honnêtement. J'ai pu faire des études, j'ai pu avoir le boulot que j'ai aujourd'hui. que ça c'est très cool. Et puis après, on a fait quand même de belles rencontres, quoi. Grâce à la Philharmonique, on a rencontré de la communauté portugaise, tu vois, parce que moi, par exemple, je suis pas bon en danse, je suis pas bon en chant, je suis bon en musique, tu vois. Donc, dans la communauté portugaise, actuellement en France, il n'y a pas non plus 8000 activités possibles, en tout cas artistiques. C'est, tu peux danser au ringe, tu vois, que moi, je sais pas faire.
C'est
d'ailleurs,
dur.
D'ailleurs, je pense que tous nos musiciens, rien que chose, c'est pas pour eux.
Ah, si, si, il y en a.
Il y en a quand même.
Il y en a, ils peuvent le faire, ouais. Et puis chanter, ouais, je suis pas très bon en chant non plus, tu vois.
Petite démo. Non, je rigole.
Non, on va aller en direct. On va éviter ça.
On évite.
Les pauvres. Il fait si beau, on appelle pas la pluie. Et je me suis perdu dans mon fil. Et oui, non, du coup, bah, la Philharmonique, c'est l'endroit où j'ai pu rencontrer pas mal de personnes de la communauté portugaise et pas mal de rencontres faites par ce biais-là, hein, de personnes avec qui on a vécu plein de trucs. Voilà, bah, exemple des trois qui partent, ils se connaissaient pas avant la Philharmonique, quoi. Ils partent tous les trois en vélo 2 semaines.
Et la vie est faite de rencontres, finalement.
Ouais,
carrément. Donc c'est trop bien. Et pour finir, quel conseil tu donnerais aux jeunes luso-descendants qui t'écoutent?
Ah, un conseil, surtout, oubliez pas le Portugal. C'est super important. C'est quand même un beau pays. On a des belles valeurs. On a une très belle culture, très riche, très belle chose à voir, à manger, à boire, à entendre,
aussi, oui.
À écouter. Vraiment, il y a plein de bonnes choses au Portugal. Parlez portugais.
Ouais.
Faites l'effort. C'est pas forcément évident. Je sais qu'on est en France. Ça parle un
petit peu moins portugais.
Mais vraiment, allez-y, parlez portugais. C'est une belle langue et ça peut vous ouvrir plein de portes, même dans la vie perso, pro, n'importe quand. Et puis, pareil, si vous voulez nous rejoindre, ça peut être un tremplin. On a une musicienne qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, qui est française, et qui s'est mise à apprendre le portugais parce qu'elle nous a rejoint.
Ah, ça, c'est beau, ça.
D'ailleurs, ouais, tout comme ta copine, Raphaël.
Oui, ma copine aussi, c'est vrai. Qui a commencé à apprendre le portugais depuis qu'on est ensemble, quoi.
C'est trop chou.
Donc voilà.
Parfait, bah merci beaucoup Raphaël et merci Guillaume pour vos réponses. Restez avec nous,
merci à vous pour l'invitation surtout.
Pardon, je vous ai coupé.
Ouais, merci pour l'invitation. Bonne fête à toutes les mamans.
Mais oui,
c'est demain, on sera pas là demain, mais bon.
Bonne fête des mamans.
Bonne fête des mères à toutes les mères de la
famille. Je te fais un gros bisou, maman. Restez avec nous, nous sommes avec vous jusqu'à 16h et d'ici 5 minutes, ce sera le moment de l'actu sport avec Esteban. En attendant, nous allons écouter Hotel California des Eagles. Kemstad 2.11 sur Radio Alpha, c'est le moment de l'actu sport avec Esteban.
Et pour commencer, c'est une question un peu habituelle que j'ai maintenant. Est-ce que justement vous suivez le sport, Raphaël, Guillaume?
Ouais, il y a la finale de LDC tout à l'heure.
C'est exactement à
18h. Ça va être le bordel.
Dans 2h30, et avec notamment les 4 Portugais, on espère qu'ils vont gagner. Ouais. Mais en tout cas, avant de parler de ça, c'est la folie dans le monde du sport portugais, même lusophone en général. Des victoires historiques, des adieux mouvants et un gala, c'est le programme que je vous ai préparé aujourd'hui. On va d'abord commencer par la surprise de la semaine. Et personnellement, elle me fait mal en tant que fan du Sporting. Je ne sais pas quel club vous sonnez au Portugal.
Sporting.
Mais parce que dimanche dernier. Magnifique.
Oui. Oh là là. Désolé, désolé.
Vous deux,
Benfica.
Oui. Allez. Bah, je pense que vous avez bien rigolé, mais bon. Dimanche dernier, les Lions ont. C'est. On bat contre deux. Dimanche dernier. Les Lions ont perdu la finale de la Coupe du Portugal contre une équipe de 2ème division. Et alors que tous les pronostics leur étaient favorables, ils se sont fait surprendre par Torriens. Les joueurs de Torres-Vedres se sont imposés 2-1 après prolongation pour s'offrir le premier trophée majeur de leur histoire. Un exploit historique pour une équipe qui s'est dans le même temps qualifiée pour la Ligue Europa l'année prochaine. Ce sera la première fois qu'ils joueront une Coupe d'Europe. Et ils la disputeront bien en tant qu'équipe de 2ème division puisqu'ils ont perdu leur barrage d'accession à la division supérieure contre Casapille. Défaite 2-0 jeudi soir. Et pour l'anecdote, ils deviendront la 3ème équipe portugaise de division inférieure à participer à une Coupe d'Europe après Beira Mar en 1999-2000 et Leixões en 2002-2003. Un match qui a également vu José Fonte fouler une pelouse pour la dernière fois de sa carrière. À 42 ans, le défenseur international portugais, vainqueur de l'Euro 2016 et de la Ligue des Nations 2019, quitte le monde professionnel de la meilleure des manières en sauvant Casapille. Malgré la défaite inattendue dimanche et une saison sans titre, le Sporting a obtenu sa place directe pour la phase de Ligue des Champions. Et alors qu'ils étaient deuxièmes en championnat, et c'est une place qui leur assurait de disputer au moins le troisième tour préliminaire de la compétition, ils n'auront pas à passer par les barrages puisque la victoire du club anglais d'Aston Villa dimanche contre Manchester City lors de la 38e et dernière journée de Premier League a profité aux hommes de Louis Bosch. Vous allez sûrement vous demander quel lien a un match de championnat anglais avec un match et un club portugais. Ben, il faut savoir que le vainqueur de la Ligue Europa, deuxième compétition européenne, se qualifie en Ligue des Champions. Or, les équipes peuvent aussi obtenir justement leur qualification via les championnats nationaux. Et pour l'Angleterre, ce sont les 5 premiers. Aston Villa finissant 4e du championnat, il libère une place qui est donc revenue au Sporting grâce au rang des Verts et Blancs au classement UEFA, un classement des clubs européens basé sur leurs résultats continentaux des dernières années. Le Sporting était l'équipe pas encore qualifiée directement pour la Ligue des Champions, la mieux placée. J'espère que vous avez compris que c'était pas trop compliqué.
Ouais, ouais.
Mais voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, en tout cas, le Sporting est en Ligue des Champions, c'est le principal. Et dimanche fut décidément une journée chargée et historique pour le football portugais, puisque Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, a battu le record de passes décisives sur une saison de Premier League. Lors de la victoire 3-0 de ses coéquipiers sur le terrain de Brighton, le milieu de terrain portugais a délivré une dernière passe décisive portant son total à 21 en 2025-2026. Le précédent record était de 20 passes décisives et il était détenu par le français Thierry Henry et le belge Kevin De Bruyne. Une saison monstrueuse de Fernandes puisqu'au-delà de ce record, il a aidé son club à se qualifier pour la Ligue des Champions en finissant 3ème et il a obtenu 4 trophées individuels pour le récompenser de sa forme exceptionnelle dont le titre de meilleur joueur de la saison décernée par les journalistes mais aussi par le syndicat des joueurs. Tout ça est donc très prometteur en vue de la Coupe du Monde dans un peu moins de 2 semaines, un tournoi dans lequel il sera le vrai leader du Portugal dans le jeu. Mais Bruno Fernandes n'est pas le seul Portugais à se distinguer par ses très bonnes performances. En Arabie Saoudite, João Félix, Jorge Jesus et Cristiano Ronaldo sont devenus champions nationaux, une première pour le club depuis 2019 et une première tout court pour CR7 depuis son arrivée dans le Royaume en décembre 2022. Comme Fernandes, João Félix a été élu meilleur joueur de la saison après avoir inscrit 20 buts et offert 13 passes décisives. Alors, après avoir dit tout ça, comment vous vous sentez justement pour la Coupe du Monde et est-ce que vous êtes plus confiant qu'il y a quelques mois? Est-ce que, enfin, comment vous la sentez cette Coupe du Monde pour le Portugal?
Ah, c'est un peu chaud. Non, en vrai, ça devrait aller parce qu'on a beaucoup de bons joueurs, surtout certains qui vont jouer ce soir. N'oubliez pas d'aller les voir. Match important. Non, mais je pense qu'on peut. Cristiano Ronaldo aussi, il fait une grosse saison. J'oublie toujours.
Oui, j'en ai pas parlé, mais oui, il a marqué plus de 20 buts. Il a marqué plus de 20 buts et tout, et oui.
Mais ouais, du coup,
si les étoiles s'alignent. On l'espère.
On espère sachant, pour la dernière de Ronaldo.
Exactement, c'est sa dernière Coupe du Monde. Et puis, de ce qu'il disait, il voulait absolument l'avoir pour partir.
Bah, c'est le dernier trophée qui lui manque.
Ouais. C'est fou, on verra plus.
On le verra plus. Ça va faire quelque chose. Enfin, il y a tout un monde du foot qui.
Une légende, c'est fou.
Exactement.
Une légende s'éteint, une nouvelle se crée.
C'est ça. On espère, en tout cas, pour le Portugal, que c'est le début d'une belle histoire, en tout cas, après la fin de carrière de Cristiano Ronaldo. Et on rappelle que le premier match a lieu le 17 juin à 19h contre la République démocratique du Congo. Et il sera bien évidemment à suivre en direct sur Radio Alpha. Ces joueurs seront rejoints notamment par Bernardo Silva. Pas de distinction individuelle pour lui, mais un très bel hommage après 9 ans à Manchester City. Le joueur de 31 ans a fait ses adieux au club dans lequel il est devenu une légende. Des titres à l'appel, dont 6 premières ligues pardon, et la première ligue des champions du club en 2023. Au programme de cet hommage, bien mérité, une haie d'honneur, un tifo, une ovation et une cérémonie à la fin du match. En 9 ans, il a joué 460 matchs pour un bilan de 76 buts et 77 passes décisives. Et justement, t'en parlais Raphaël, ce soir a lieu la finale de Ligue des Champions à 18h. Vitinha, João Neves, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos, le quatuor portugais du Paris Saint-Germain, seront aussi au Mondial. Mais avant, ils ont l'occasion de marquer l'histoire du football français et européen en remportant une seconde Ligue des Champions consécutive avec leur club. La finale sera donc ce soir à 18h contre Arsenal et vous pouvez la vivre gratuitement à la télé sur M6. Après cette longue page football, place au tennis désormais et à Roland-Garros. Le Portugal et le Brésil marquent l'histoire, commençons d'abord par les Portugais. Pour la deuxième année consécutive, deux hommes se sont qualifiés pour le troisième tour du Grand Chelem parisien. Nuno Borges s'est malheureusement incliné hier contre le Russe Andrei Rublev après un match perdu en 3-7 serré, 7-5, 7-6, 7-6. Mais je voulais vraiment mettre la lumière sur l'autre Portugais qui est au troisième tour. Il s'appelle Jaime Ferreira, le jeune tennisman de 22 ans qui est passé par les qualifications en plus. Il continue d'impressionner avec ses deux victoires en 3-7. Sans trembler, donc, il est devenu le deuxième Portugais de l'histoire à gagner 5 matchs de suite en Grand Chelem depuis Henrique Roche. Ce dernier avait aussi réalisé cet exploit à Roland-Garros l'année dernière avant de s'incliner au troisième tour. On espère une autre finalité pour Ferreira qui affronte ce soir l'Américain Francis Tiafoe. Rendez-vous vers 18h, oui, en même temps que sûrement que la finale de Ligue des Champions.
Il va falloir mettre plusieurs écrans, là.
C'est ça. Mais une rencontre, en tout cas, qui sera aussi à suivre gratuitement sur les antennes de France Télévisions. J'ai parlé du Brésil parce qu'un autre jeune Brésilien a réalisé un exploit retentissant, son nom, João Fonseca. Retenez bien son nom. À seulement 19 ans, il a renversé la légende Novak Djokovic, mené 2-7-0. Fonseca n'a rien lâché pour remporter les 3 sets suivants avec un niveau de jeu tout simplement exceptionnel. Score final 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 en 4h53.
Wow.
Yeah, c'est costaud. Ouais. En plus, il faisait chaud, donc franchement, les deux, c'est très fort.
Ils ont du cardio.
Vraiment. Et donc, il s'est fait un nom pour le plus grand bonheur des Brésiliens qui étaient en tribune hier après-midi. Est-ce que justement, je sais pas, vous avez suivi ou vous avez vu le... sur les réseaux sociaux,
moi, vu,
le score ou des infos sur...
J'étais choqué quand j'ai vu qu'il avait 19 ans.
Ouais.
Je suis beaucoup plus rugby.
Ouais. Ah, rugby, bah, moi aussi j'aime bien le rugby. Donc, et le Portugal est pas mal en rugby en plus.
Ah, 2027, ça...
on espère, ouais, c'est ça.
Là, on a le temps.
En 2023, ils ont gagné leur premier match. Donc,
les Fidji, incroyable, j'ai pleuré.
Ouais. En tout cas, on a le temps avant la Coupe du Monde qui sera en 2027 en Australie, voilà, comme ça c'est dit. On conclut cette chronique par le 27e gala du sport, organisé ce mercredi 27 mai le soir. Le cycliste João Almeida a été élu sportif de l'année, tandis que Madeleine Costa, la patineuse sur roller, a été désignée sportive de l'année. Et ça, c'est pour le plus grand bonheur de Julie, hein, qui n'est malheureusement pas présente avec nous, mais qui est très contente de ce choix. C'est sa sportive préférée, son sport préféré, clairement. Et dans les autres catégories, Eli Piusilva, entraîneur de patinage de vitesse, a reçu la distinction d'entraîneur de l'année. La surfeuse Marta Paz sous le trophée de sportive en situation de handicap de l'année. L'équipe de l'année revient à l'équipe portugaise masculine de handball et la plus grande promesse au tireur Xavier Melo. Un dernier prix honorifique, celui du haut prestige, a été attribué à l'ancien athlète Fernando Ribeiro, champion olympique du 10 000 mètres en 1996 au JO d'Atlanta et médaille de bronze en 2000. En hommage à son incroyable carrière, donc, elle a aujourd'hui 56 ans et fêtera ses 57e bougies le 23 juin prochain.
Merci beaucoup Esteban, c'était rempli de belles victoires.
Il s'en est passé des choses.
Clairement, c'est incroyable. Juste après, ce sera Arte Yondes avec Laura. Et tout de suite, on s'écoute le dernier single de Adèle Castillon. Encore pour faire plaisir à Julie, même si elle n'est pas là. Sorti hier et il a été en tout cas très attendu puisque des extraits tournaient déjà sur les réseaux sociaux. Et le single s'appelle « Été avec toi ».
Idiot. La limite c'est le ciel, on passait dans un Ouigo. Assim se espalha a arte em ondas com a Laura.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga e estamos consigo até às 4. Chegou a tempo para Arte em Ondas. Então, Laura, o que é que apresentas hoje?
O ano passado, quase na mesma altura, falei do Festival Wool na Covilhã. Este faz parte dos projetos que transformam verdadeiramente um território. Por isso mesmo, faz sentido voltar a falar dele hoje. Porque o Wool não é apenas um festival de arte urbana, é um projeto cultural com 15 anos de história, criado no interior do país, longe dos grandes centros, e que conseguiu transformar a Covilhã numa referência nacional e internacional da arte urbana contemporânea. Para quem nunca ouviu falar do Wool, tudo começou em 2011, numa cidade profundamente marcada pela indústria têxtil e pela desertificação do interior. A ideia era simples, mas ambiciosa. Usar a arte no espaço público como ferramenta de transformação social, cultural e até económica. Não apenas decorar paredes, então, mas criar relações entre artistas, habitantes, memória e território. E a verdade é que resultou. Hoje, a Covilhã tem dezenas de murais espalhados pelas ruas, muitos deles já fazem parte da identidade visual da cidade, e o festival tornou-se um caso raro de continuidade cultural em Portugal. Enquanto muitos eventos vivem de modas passageiras, o Wool construiu uma relação consistente com a comunidade local. Há workshops com moradores, atividades para crianças, projetos, música, cinema, conversas, instalações. É uma tentativa constante de envolver a cidade inteira no processo criativo. E já que falamos da Covilhã como cidade de cultura e de criação artística, deixo também uma nota rápida. A cidade vai receber de 1 a 9 de agosto os Encontros Europeus de Jovens Lusos da Cap Magellan, este ano dedicados ao tema Tecer a Inclusão, Identidades e Arte. E para voltar ao festival, este ano o Wool celebra 15 anos. A edição de 2026 foi apresentada como uma edição especial, quase simbólica, uma celebração do percurso feito desde 2011. Estavam previstas novas instalações, concertos, conversas, ocupações de espaços industriais históricos da Covilhã, e um programa particularmente ambicioso. Mas, entretanto, Surgiu um problema sério. Um corte inesperado no financiamento. Segundo a organização, o festival sofreu uma redução de cerca de 30% no orçamento depois de alterações no regulamento do programa Portugal Events ligado ao turismo de Portugal. Até aqui, o UOL recebia um apoio significativo diretamente através desse programa, mas as novas regras obrigaram projetos com um orçamento inferior a 500 mil euros a candidatarem-se através das entidades regionais de turismo. Isso mudou completamente o cenário. Na prática, o UOL passou a concorrer através do Turismo Centro, que tem uma dotação financeira muito mais reduzida. Resultado, o festival recebeu apenas cerca de 10% do orçamento total, quando anteriormente o apoio rondava os 30% ou 40%. E quando se perde quase um terço do orçamento de um festival independente, há consequências inevitáveis. A organização anunciou então o cancelamento ou adiamento de várias iniciativas importantes desta edição. Entre elas está a chamada Fábrica UOL, que talvez fosse o projeto mais emblemático deste ano. A ideia era ocupar a antiga Nova Penteação e Fiação, um espaço industrial histórico da Covilhã, transformando-o durante uma semana num centro cultural multidisciplinar com instalações imersivas, exposições e atividades para vários públicos. Também foram canceladas as UOL Talks, criadas recentemente como espaço de reflexão sobre arte urbana, participação e comunidade, e desapareceram ainda iniciativas como o Lata 65, um projeto lindíssimo de arte urbana para idosos que já apresentei nesta rubrica, e a exibição do documentário Subimos Juntos, dedicado à acessibilidade cultural. Ora, isto levanta uma questão importante. Em Portugal, fala-se muitas vezes da necessidade de descentralizar a cultura. Dizem que é preciso levar programação artística para fora de Lisboa e do Porto. Dizem que o interior precisa de investimento, de novas dinâmicas culturais. Mas depois, quando aparece um projeto que faz exatamente isso, há 15 anos, com reconhecimento internacional, impacto turístico e verdadeiro trabalho comunitário, este projeto vê o financiamento reduzido drasticamente. E atenção, não estamos a falar de um festival criado ontem. O UOL ajudou a transformar a imagem da Covilhã. Trouxe visitantes, artistas, jornalistas, investigadores, criou percursos de arte urbana permanentes. Fez da cidade uma referência internacional neste contexto e fê-lo a partir do interior do país, com uma lógica muito diferente daquela cultura rápida e descartável que tantas vezes domina os eventos urbanos. A organização diz que continua a acreditar na arte e na cultura como primeira linha de defesa democrática e como fonte de espírito comunitário, imaginação e resiliência. E eu acho que isto merece ser sublinhado, porque muitas vezes olhamos para a cultura apenas como entretenimento, como algo acessório, mas projetos como o UOL mostram precisamente o contrário. A cultura pode criar pertença, que pode aproximar pessoas, pode mudar a relação que uma cidade tem consigo própria, sobretudo no interior, onde tantas vezes existe a sensação de abandono. Claro que o festival vai continuar. A organização já confirmou que o UOL 2026 acontece na mesma, entre 11 e 21 de junho, embora com o programa reduzido. Isso também diz muito sobre quem está por trás deste projeto, sobre a persistência necessária para manter vivo um festival independente durante 15 anos em Portugal. Mas talvez este momento sirva também para refletirmos sobre aquilo que realmente valorizamos quando falamos de política cultural, porque apoiar a cultura não é apenas financiar grandes eventos mediáticos nas capitais, também é proteger projetos que trabalham o território a longo prazo, projetos que criam memória coletiva, projetos que transformam cidades pequenas em lugares culturalmente vivos, e nesse aspecto o UOL tornou-se um exemplo raro. um festival de arte urbana que nunca quis ser apenas um festival de arte urbana, por isso que faz tanta falta protegê-lo.
Muito obrigada, Laura. Voltamos daqui a 5 minutos para os bons plans, mas primeiro deixo-vos ouvir o último single dos meus favoritos, A Prova da Bala, dos Calema, que poderão ver dia 28 de junho no Festival do Imigrante.
Tô tão longe, longe de casa, sozinho perdido no meio da estrada, asfalto e mais nada, em busca de um sonho que nunca acaba, sem saber a hora que eu vou voltar. Mesmo longe, guardo no olhar as memórias boas daquele lugar, daquelas pessoas, do chão que eu pisei, onde eu vou voltar. Na caminhada, as águas correm, as folhas caem, o tempo passa, mas esse medo do que deixei nunca me larga. Será que ainda é meu lugar? Imune a despedida, a prova de balas pra viver.
Roupa na mala, que hoje não passa, eu vou voltar.
Vida, pra onde quiser pode me levar. Pensei que fosse imune a despedida, a prova de balas pra viver.
Cerveja gelada, carne na brasa, eu vou voltar.
Vous êtes toujours sur Radio Alpha, l'émission Temstat 2.1 touche à sa fin. Mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Pour les événements à venir, Lionel Cecilio se présente toujours à Paris pour sa pièce La Fleur au Fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au Théâtre Comédie Bastille jusqu'au 29 juin. L'association portugaise du coup de pelote basque, comme on parlait juste avant, organise son tournoi international et son championnat national de frontball les 30 et 31 mai au pavillon Multisus de Covenanche à Viseu. Le 1er juin, on a le concert de Liniker, salle Pleyel. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'icône de la nouvelle scène brésilienne. Liniker a conquis justement le public international avec sa voix très puissante et son mélange de styles, parce qu'elle fait du pop, de la samba, du jazz, de la house, du pagode et du reggae. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Du 16 juin au 21 juin, la semaine de la gastronomie de Radio Alpha est de retour à la salle Vasco da Gama et met à l'honneur Leiria et sa région. C'est une expérience gastronomique unique avec des menus journaliers à partir de 49€ seulement. Retrouvez par exemple o lombo de bacalhau ao lagareiro, arroz de marisco com lagostas, leitão de Boa Vista à Pinto e cabrito da Serra Assado. Pour les enfants entre 5 et 12 ans, le menu est à 35€. L'espace sera uniquement fermé, par contre, le 16 midi et le 18 au soir. Mardi 16 juin, la nuit sera solidaire avec l'association Todos Juntos qui organise l'opération Apedrinha a Tua Árvore en soutien justement aux enfants affectés par la tempête Christine. Le mercredi 17 juin, le premier match du Portugal au Mondial sera retransmis en direct. L'ouverture des portes sera à 18h30 pour le début du match à 19h. Réservez donc votre place par téléphone au 01 45 10 98 66. 01 45 10 98 66. O Festival do Imigrante est de retour pour notre plus grand plaisir et cette année ce sera donc les 27 et 28 juin au stade des Beaux Regards à Herblay-sur-Seine. Il y a une véritable rencontre de la communauté lusophone avec de la musique, de la gastronomie et des animations. Je vous donne quelques petits noms pour la line-up. On a évidemment Les Kalema, Lucenzo, Pedro Sampaio, Matias Damasio, José Melio, Santa Maria. Enfin bref, deux jours de concert avec la culture portugaise, c'est vraiment le rêve. Donc je vous conseille vraiment à tous d'y aller. J'y suis allée l'année dernière, on y était l'année dernière, c'était génial. Avec justement le soutien de Radio Alpha. Et toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Tempsta 2.1 et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Raphaël, merci Guillaume, merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse redire vos petits réseaux sociaux aussi pour qu'on vous suive et des petites dédicaces. Oui, des petits bisous si vous voulez.
Non, mais encore merci à vous pour l'invitation. C'était vraiment une expérience. Première radio pour moi, donc très cool. Merci beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux. Donc Instagram, philharmonique_portugaise. Suivez-nous, c'est important. N'hésitez pas à nous contacter aussi si vous voulez nous rejoindre ou si vous voulez des informations. On a un mail pportugaise-de-paris@gmail.com. N'hésitez pas pour des sorties, même si vous voulez nous proposer des prestations ou autres. Et pour nous rejoindre pour les répétitions, on répète le vendredi soir de 21h à 23h au 28 rue Westermeyer à Ivry-sur-Seine. Donc c'est les locaux de l'association Alex Donald. Donc n'hésitez pas à venir, c'est ouvert, vous pouvez venir jouer avec nous. On accepte tous les niveaux, tous les instruments, surtout avant. Et voilà. Bah, venez, rejoignez la famille, les amis. Enfin voilà, on s'amuse bien, on est pas méchants. Voilà.
Et je te laisse faire des dédicaces parce qu'à ce qui paraît, t'en as beaucoup.
Alors. Non, mais dédicaces à tous nos musiciens, principalement, qui nous ont écoutés aujourd'hui. Ça a été nos premiers fans quand je leur ai dit. Ils ont dit, waouh, trop bien, on va écouter. Donc voilà, donc merci à vous tous d'avoir écouté. Et puis tous mes amis et toute la famille qui ont pu voir et se rendre disponibles pour écouter. L'émission, merci à vous pour le support que vous donnez au quotidien. Et merci maman, bisous.
Merci à Tempstad de nous recevoir, merci aux auditeurs de nous écouter, et puis n'hésitez pas à retrouver la Philharmonique sur nos réseaux, comme l'a si bien dit Raphaël.
Rappelons-le quand même les réseaux, parce que c'est...
Instagram, voilà. Philharmonique Portugaise de Paris ou Philharmonique_Portugaise. Facebook, Philharmonique Portugaise de Paris également. Et puis l'adresse mail pportugaise-de-paris@gmail.com.
Merci beaucoup à vous deux. Et on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. On se laisse avec Terceiro Acto, Tom GVNG. Désolée, mais je ne sais pas comment on prononce ça. Mais en tout cas, on va se l'écouter. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous.
Bisous, bonne semaine. Com furos de dinamite. E se eu vir o mundo interessado é pagar a fatura que eu dou recibo. No fundo o que eu faço é forçar o passado a passar a futuro em que eu acredito. Com tudo dito onde eu medito, vão ver o rapaz hipnotizado. Entre o marão e a fronteira tu para, que já estás no spot exato. Pergunta do guido do que eu lhes fabrico e tu dás de caras com o boato. Não tem razão para estar com uma nova pulseira ou atrás de barras ao quadrado. Hey, what? Ninguém vai parar o que é tão gay. Hey, what? Ninguém vai mostrar o que a Tom tem. Eles não estão na luta que a Tom tá, mas ficam na escuta se a Tom vem. Ei, what? Ninguém vai calar o que a Tom tem. Ei, what? Que a Tom tem. Ei, what? Ninguém vai calar o que a Tom tem. Parças estão na luta se a fome vem. Dou graças à cru que se a fome bem. Ei, what? Ninguém vai parar o que a Tom tem.
Saio de uma prisão, volto para outra. Há sempre algo que trava. Com oportunidades a baterem à porta só quando eu não estava. Sempre fui underdog, mas não aterrei aqui de paraquedas. Consegui uma boleia com o super-homem por criptomoedas.
Há génios em gruta, nascidos sem berço. Nada que se pareça com berço de ouro. Do que tu contas são contas do terço. Sem nenhuma bênção do futuro vindouro. Falar a verdade é como munição. Para ter mais inimigos é esse o compêndio. Mas antes de arrepender-me do meu discurso, do que arrepender-me do meu silêncio. Não preciso de ter o meu busto em museus. Prefiro ter a minha rima estudada em liceus. Eu deixei de pedir as graças a Deus. Quando o que recebo é graças com adeus. Na ponta da caneta só verdade não teta. Uma face e faceta só porta da fome. Pelo mão desta feita salivo sem muleta. A espalhar pelo planeta a mensagem da Tom. Hey, what? Ninguém vai parar o que é Tom Gang. Hey, what? Ninguém vai mostrar o que a Tom tem. Eles não estão na luta que a Tom tá, mas ficam na escuta se a Tom vem. Hey, what? Ninguém vai calar o que a Tom tem. Hey, what? Que a Tom tem. Hey, what? Ninguém vai calar o que a Tom tem. Parças estão na luta se a fome vem. Dou graças à cru que se a fome bem. Hey, what? Ninguém vai parar o que a Tom Gang. Que nunca nos falta voz. Que eu não vou largar o posto. Nos viste com uma cara atroz. É pura não ter mau gosto. Nunca foi por termos comprado. E jamais com termos comprado. Foi pena surgirmos tão tarde. Mas o que lançamos são dados. Para quem não se atreve isto é entrave. Então vim bater na barra tipo free kick. Vim para revelar essa big pick. De quem escreve dirty com big chic. Clandestinos, que ironia. Estou no limiar de uma epifania. A ver quando eu crio uma escrita fina. E subo o calibre à caligrafia. Ei, boy, eu ando a brincar com a matéria escura. Lutar para fintar a miséria pura. Não está a compensar o escapar da purga. Ei, boy, eu vim para manter esta voz gritando. Mas nunca acabar como um militante. Para me vir acusar no contrato das urnas. Ei, what? Ninguém vai parar o que é Tom Gang. Ei, what? Ninguém vai mostrar o que a Tom tem. Eles não estão na luta que a Tom está. Mas ficam na escuta se a Tom vem. Ei, what? Ninguém vai calar o que a Tom tem. Ei, what? Que a Tom tem. What? Ninguém vai calar o que a Tom tem. Parças estão na luta se a fome vem. Dou graças à cru que se a fome bem. Ei, what? Ninguém vai parar o que a Tom Gang.
Tempestade 2.1. O programa dos lusodescendentes e dos lusodependentes que agita a sua tarde de sábado, das 14 às 16, só na Rádio que nos liga. Redifusão, sexta-feira, às 0 horas e podcast do site radioalfa.net. Tempestade 2.1.